Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la taxe carbone va-t-elle faire son retour ? Trouvons une fiscalité carbone équitable. Tribune de 86 députés ce matin, celui qui est à l'origine du texte, Mathieu Orphelin, est notre invité. Pour alimenter la discussion, la réaction d'une des figures des Gilets jaunes en mode « ils n'ont décidément rien compris ». Et ce rapport de l'INSEE qui nous dit que 7 salariés sur 10 vont travailler en voiture. Les plus dépendants au carburant sont les plus pauvres. Le climat de violence en cet hiver du mécontentement, témoignage d'une élue En Marche menacée de mort. C'est la rapporteuse de la loi anti-casseurs. Cet après-midi, l'ex-boxeur Christophe Détinger est jugé au tribunal correctionnel. Très belle soirée pour le PSG. Hier, en Ligue des Champions, 2-0 à Manchester. Exploit. Moins belle soirée pour RMC Sport, le diffuseur du match. Bonjour Cécilia Arbonin.
Bonjour.
Le match, on a pu en partie le suivre sur la page Facebook du PSG.
Oui, on connaît le bidouillage, mais pas le copinage avec le PSG. On va vous expliquer ça. Ça vient du Brésil, tout ça.
Dans ce journal encore, cette dernière minute, le gouvernement espagnol en difficulté, projet de budget rejeté. La France va-t-elle livrer à l'Italie d'ex-militants accusés de violence lors des années de plomb ? Discussion aujourd'hui à Paris. Carlos Ghosn change d'avocat. Le nouvel élu est surnommé l'artiste de l'acquittement. Derniers échos de l'Elysée avec Cyril Graziani après l'annonce d'un nouveau départ parmi les conseillers d'Emmanuel Macron. Le projet de loi santé en Conseil des ministres. Comment lutter contre les déserts médicaux? Ces régions où les médecins à la retraite ne sont pas remplacés ici dans le Gers.
Lorsque je m'installe, nous sommes une dizaine de médecins généralistes. Aujourd'hui, nous sommes 4 et demi. En 19 ans, on est à 50%.
Voilà, reportage dans le Gers plus longuement tout à l'heure avec Stéphane Iglesias. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que dit Météo France aujourd'hui, Sébastien?
Eh bien, on a eu de nombreux brouillards ce matin, mais ces grisailles se dissipent et on va profiter d'un après-midi sous le soleil sur le sud ou sous un ciel légèrement voilé sur la moitié nord. Et début d'après-midi ensoleillé aussi autour de la Méditerranée, mais des nuages vont progressivement aborder les plages du Languedoc. Et puis les températures sont en hausse, 6 à 12 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 15 voire 16 degrés sur le sud.
D'autres détails tout à l'heure, juste avant cela, la chère Eva Bétan pour ses choix cinéma du mercredi. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Et bonjour Mathieu Orphelin.
Bonjour à vous.
Député du Maine-et-Loire, vous êtes en direct de l'Assemblée grâce à la liaison établie par Jérémy Thuil. Député et pompier pyromane, se dit-on, avec un brin de mauvais esprit, Mathieu Orphelin. Vous êtes à l'origine d'une tribune publiée ce matin dans le Figaro avec 85 autres députés. Trouvons une fiscalité carbone équitable. On va évidemment parler du fond et de vos propositions dans un instant. Mais déjà, le débat est embarqué sur le mode. Est-ce le retour de la taxe carbone à l'origine du mouvement des Gilets jaunes? Il suffit de prononcer ces deux mots. Taxe carbone devant Jacqueline Mourot, l'une des figures des Gilets jaunes, pour qu'elle parte au quart de tour.
Visiblement, ils n'ont pas dû comprendre ce qui vient de se passer. On vient de leur expliquer qu'on n'avait pas un rond pour changer de voiture et ils veulent continuer, recommencer à nous punir parce qu'on ne peut pas changer de voiture. C'est le chien qui se mord la queue. Évidemment que de toute façon, il va falloir trouver des solutions. Mais il faut commencer par montrer l'exemple. Il faut taxer ceux qui polluent le plus. Et ce sont des grosses entreprises qu'on subventionne à coups de millions d'euros. Donc ça, il faut que ça cesse. Comment voulez-vous que demain, on repaye encore toutes ces augmentations? On ne peut pas vouloir reparler de ça à seulement 3 mois de début de cette manifestation qui n'est pas encore terminée. Ils jettent de l'huile sur le feu et j'ai l'impression que c'est de l'huile de palme.
Alors Mathieu Orphelin, est-ce que vous jetez de l'huile sur le feu? Est-ce le retour de la taxe carbone?
Pas du tout, la tribune, c'est tout sauf le retour de l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était prévue. Et dans les mots de Jacqueline Gouraud, je retrouve beaucoup de choses qui sont dans la tribune. On dit notamment que peut-être cette fiscalité écologique, cette fiscalité carbone plus équitable, eh bien elle doit d'abord s'occuper de nouveaux secteurs industriels plutôt que d'être pour les citoyens. Donc là, c'est un point de convergence avec ce que je viens de voir. Deuxième chose, on dit dans cette tribune aussi qu'il faut que ça se fasse pas sur le dos de ceux qui ont le moins d'argent, qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Et on propose notamment, et ça fait partie de ces réflexions, des dispositifs, pourquoi pas, pour rebondir sur ce qui a été dit à l'instant, des dispositifs, changer de voiture pour une voiture moins polluante, plus économe en énergie, à 1 euro. Parce qu'on a vu, vous voyez, c'est justement ce que vous dites. On a entendu les Gilets jaunes, on a entendu tout ce qu'ils nous ont dit sur la fiscalité carbone. Il faut la repenser, et pas comme une taxe en plus, au contraire, comme un ensemble global, cohérent, juste socialement. Donc, au contraire, discutons de ça. Mais je vous le dis, il n'y a pas de contradiction entre ce qu'on dit dans la tribune et ce que cette représentante des Gilets jaunes vient de dire justement. Travaillons ensemble à tout ça.
Ce que vous dites notamment, c'est que si on doit récupérer de l'argent en plus sur l'essence, il faut que cet argent soit fléché pour aider ceux qui en souffrent le plus. C'est bien ça ?
En tout cas, ce qu'on voit, c'est effectivement que dans des pays où la fiscalité carbone est mise en place avec plus de succès que chez nous, effectivement, le fait que les recettes fiscales soient redéployées entièrement, soit pour accompagner les classes moyennes et les ménages les plus modestes, soit pour les accompagner encore plus spécifiquement dans leurs actions de transition écologique, c'est quelque chose qui permet qu'elles soient mieux acceptées. Et ça a été un des problèmes soulevés par les Gilets jaunes en France. Moi, je l'ai entendu des centaines de fois. Mais vos taxes écologiques, on voit pas à quoi elle sert. Par ailleurs, elle n'était pas non plus corrélée aux prix internationaux du pétrole. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut recorréler. Mais ce n'est pas le retour de la taxe carbone telle qu'elle existait. Parce que aussi, la fiscalité écologique, ça peut être, par exemple, des baisses de TVA sur la consommation durable, sur des produits durables, sur les transports en commun, sur tout un tas de choses.
Donc, juste, Mathieu Orphelin, il y a le principe sur la question. Et puis après, le fléchage, souvent, il se perd. Et au fond, l'argent tombe dans le budget général. Et de fléchage, il n'y en a plus à la fin.
Et c'est un vrai problème. Beaucoup de Gilets jaunes me l'ont dit, moi, l'ont dit aux collègues députés. On est 90 pratiquement à signer cette tribune de 5 groupes différents. C'est une tribune collective. Mais on a souvent entendu les Gilets jaunes dire...
En Marche, UDI, socialistes notamment.
Voilà, et on a souvent entendu, mais en fait, cette taxe carbone, elle sert à alimenter le budget de l'État, alors qu'elle devrait servir à financer des actions de transition écologique. Ben, il faut entendre tout ça, tous ces messages très clairs des Gilets jaunes. Ils doivent nous servir, et vous, dans notre texte, on propose pas quelque chose de tout ficelé, etc. On dit, travaillons tous ensemble, les citoyens, les syndicats, les associations de consommateurs, de défense de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissons collectivement une fiscalité écologique plus juste, socialement plus équitable. Il faut qu'on discute de ça dans le grand débat de façon apaisée. Il n'y a pas de décision aujourd'hui. On n'a même pas mis de proposition sur la table. Mathieu, il faut que les acteurs s'en saisissent.
Mathieu Orphelin, on parle de ce rapport de l'INSEE dans une petite seconde avec Fabien Cazot sur l'usage de la voiture pour les salariés. Juste cette question, pourquoi relancez-vous le débat maintenant? Au fond, on aurait pu se dire, on attend 3 mois. C'est Dominique Seux ce matin sur France Inter qui disait, on aurait aimé respirer un peu.
Alors je vous le dis, cette question de fiscalité carbone, elle peut venir sur de la fiscalité positive aussi, oui. Baisse de certains impôts, baisse de la TVA sur certains services,
mais on ne pouvait pas poser le débat de manière apaisée dans 6 mois, 8 mois, un peu plus tard.
Il y a 2 thèmes du grand débat qui sont sur les 4 thèmes. Il y en a un, c'est la fiscalité, et l'autre, c'est la transition écologique. Donc c'était difficile de dire, on ferme les yeux et on parle pas de ces sujets-là qui sont au cœur. Donc il s'agit en rien, je le redis, de faire revenir la taxe carbone telle qu'elle était prévue, mais de réfléchir ensemble. Par exemple, beaucoup de Gilets jaunes m'ont dit, mais attendez, le transport maritime, c'est pas taxé, etc. Ben, ça peut être ça, une des voies de retour de la fiscalité.
Débattons, en commençant. Dites-vous.
Exactement, faut pas avoir peur du débat. Et surtout, je demande aux gens de pas instrumentaliser. Là, on dit, débattons ensemble, il n'y a pas de proposition très concrète et c'est en plus en phase avec ce que nous ont dit nombre de Gilets jaunes.
Alors ce rapport de l'INSEE, bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Rapport de l'INSEE publié aujourd'hui sur les Français et la voiture avec ce chiffre clé, 7 salariés sur 10, Fabien, vont travailler en voiture.
C'est une moyenne, la proportion est encore plus élevée dans les départements ruraux, Cantal, Creuse, Lozère, Vendée ou encore Gers. Selon l'étude, au moins de 2% des salariés ont recours à des transports en commun, autant dire quasiment personne. La voiture reste le mode de transport privilégié, en particulier pour les ouvriers et les professions intermédiaires, alors que la proportion est un peu moins forte chez les cadres qui vivent plus en ville et donc qui utilisent davantage les transports en commun. Paris et sa petite couronne ainsi que Lyon sont les seules agglomérations où les bus, trams et autres métros prennent le dessus sur la voiture. C'est plus anecdotique, mais le vélo se fait aussi une place grandissante à Grenoble, Strasbourg et Bordeaux. Au niveau national, le règne de la voiture reste sans partage. L'aller-retour domicile-travail représente pour plus de 3 millions de salariés plus de 50 km à parcourir chaque jour.
Mathieu Orphelin, je rappelle qu'il y a quelques jours, vous étiez encore député La République En Marche, puis déçu par la politique écologique du gouvernement. Vous êtes maintenant chez les non-inscrits sans avoir totalement rompu les amarres. Que dites-vous de ce que vient de toutes ces données que vient de nous livrer Fabien Cazot ?
Je dis qu'il faut qu'on accompagne les Français dans la sortie, dans les solutions pour sortir de cette dépendance au tout voiture que vous venez de très bien de résumer avec des chiffres très frappants. Il faut qu'on investisse massivement dans les transports en commun, notamment dans les nouvelles offres de mobilité en zone rurale. Il faut qu'on investisse massivement aussi sur les nouveaux modes de développement, de déplacement, par exemple le vélo. Et puis, il faut qu'on aide encore mieux qu'aujourd'hui les gens à se tourner, quand ils doivent utiliser leur voiture, vers des voitures moins polluantes et qui vont aussi moins consommer d'énergie.
Et on va trouver des budgets pour tout cela ?
Ben, il faut, parce que il y a plein de gains. D'abord, il y a des gains pour les personnes sur le pouvoir d'achat. Effectivement, quand vous allez passer un véhicule moins consommateur, vous allez diviser vos consommations de carburant de 2 ou 3. Et donc, il faut aider les gens à pouvoir changer de véhicule. Il y a déjà la super prime qui existe, mais il faut passer à des offres encore plus innovantes. Pourquoi pas le changement de véhicule à 1 €, où on récupère après sur les économies de carburant. Et après, il y a plein de gains. On va sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Donc, ça va permettre de lutter contre le dérèglement climatique. Il va y avoir des impacts aussi sur la pollution de l'air, sur la santé, etc. Il y a plein de gains. C'est la situation actuelle qui fait que notre pays, on l'a bien vu avec la crise des gilets jaunes, les gens n'arrivaient plus à payer leurs factures d'essence ou de gazole. Il faut qu'on les aide à sortir de cette dépendance auto-voiture, auto-énergie non renouvelable.
En quelques secondes, Mathieu Orphelin, juste une question. Est-ce que vous, je le disais, vous n'avez pas totalement rompu les amarres, vous en avez parlé à vos collègues de La République En Marche, éventuellement au gouvernement, de cette tribune, quelle réaction ?
Mais j'ai vu d'ailleurs, et c'était en rien coordonné, j'ai vu hier que le ministre de la Transition écologique, par exemple, avait remis lui aussi cette question de qu'est-ce que veut dire une fiscalité écologique juste, socialement.
Donc ça doit avancer avec le débat
matin,
de votre point de vue.
Ministre, discutons de tous ces sujets-là, okay. Même les sujets difficiles, avec des solutions nouvelles, en apprenant de la crise des gilets jaunes, en essayant pas de refaire la même chose, mais au contraire de repartir de tout ça. Aider les citoyens à sortir de cette dépendance à la voiture, développer les offres alternatives, redonner du pouvoir d'achat. Ça peut être une chance pour notre pays aussi, une fiscalité écologique positive.
Merci Mathieu Orphelin et merci à Éric Gérard qui était à vos côtés pour France Inter. En tout cas, le climat reste à la violence en France. Une preuve de plus, encore une élue menacée de mort. Alice Toureau, députée En Marche de la Drôme, elle est à l'Assemblée la rapporteuse de la loi anti-casseurs. Elle a reçu un courrier fin janvier, un de plus.
Le courrier me dit qu'on va venir me chercher chez moi avec des fusils d'assaut. Après, vous savez, on a reçu avec mes collègues tellement d'insultes et de menaces au cours des dernières semaines et des derniers mois que c'était presque du quotidien. Pas les menaces de mort, mais des menaces et des insultes, oui, c'était tous les jours. Il y a eu plusieurs canaux, il y a eu aussi le répondeur téléphonique de la permanence, qui a été saturé un certain nombre de jours avec des menaces, évidemment anonymes, c'est très courageux. J'ai pas reçu de menaces physiques dans la rue d'ailleurs. Moi, je voudrais remercier les Gilets jaunes de Montélimar qui sont jamais venus jusqu'à mon domicile et qui ont respecté ça aussi, et c'est quelque chose que je voudrais souligner, parce que encore une fois, j'ai reçu beaucoup de gens très sympas avec qui on peut échanger, et il faut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Vous avez porté plainte ?
Je vais porter plainte, oui, parce que la personne qui m'a envoyé des menaces de mort en a envoyé apparemment à quelques autres députés et à 3 ministres, et elle aurait été retrouvée, donc je vais aller déposer plainte cette semaine, oui.
Propos recueillis par nos confrères de France Bleu Drôme. Ne pas mettre tout le monde dans le même panier, dit la députée, c'est à souligner, mais reste ce climat de menaces, parfois de coups et les procès. L'ex-boxeur Christophe Détinger, qui s'en était pris début janvier à 2 gendarmes à Paris, comparaît devant le tribunal correctionnel. L'audience, théoriquement, doit commencer dans quelques minutes. Un nouvel avocat pour Carlos Ghosn, toujours emprisonné à Tokyo. Comment interpréter ce choix ? C'est un changement de stratégie, Yann Rousseau.
Effectivement, c'est un véritable changement de stratégie pour Carlos Ghosn. Alors, depuis son arrestation le 19 novembre dernier, il avait fait confiance à Motonari Otsuru, un ancien procureur extrêmement discret, plutôt procédurier, qui était très concentré sur ses seules mises en examen au Japon. Mais Carlos Ghosn n'était pas satisfait de ses services. D'abord, il n'avait pas encore réussi à lui obtenir de libération sous caution. C'est en ce moment la priorité du patron français, sortir de prison. Et depuis quelques semaines, les deux hommes n'étaient plus non plus sur la même ligne quand il s'agissait de mobiliser l'opinion publique sur l'affaire, par des communiqués ou des interviews avec la presse. Carlos Ghosn a donc opté pour une défense totalement différente. Il va maintenant être représenté par Junichiro Hironaka, un pénaliste beaucoup plus politique, plus médiatique, qui ne devrait pas hésiter à dénoncer le traitement qui est imposé à l'ancien patron de Renault. Cet avocat est d'ailleurs connu au Japon pour avoir pris et parfois gagné des cas très délicats. Les médias l'ont d'ailleurs baptisé le rasoir ou l'artiste de l'acquittement.
Voilà pour les précisions de Yann Rousseau à Tokyo pour France Inter. Dans l'actualité internationale également, cette rencontre au ministère de la Justice en France, est-ce que la France va livrer à l'Italie des personnes accusées de militantisme et de violence au moment des années de plomb? Réunion au ministère de la Justice, place Vendôme, une quinzaine de cas évoqués. Que faire pour qu'il y ait plus de médecins en France, plus de professionnels de santé, à la campagne en particulier? Le projet de loi santé était présenté ce matin au Conseil des ministres. Alors c'est la fin du numerus clausus, on va vers la fin du numerus clausus, plus de numérique, on jette les bases du soin à distance, les hôpitaux de proximité et puis en zone rurale, le gouvernement souhaite que les maisons de santé deviennent la norme. Des maisons de santé contre les déserts médicaux, explorons cette piste à Lectoure dans le Gers. Reportage Stéphanie Glésis.
Lectoure, 3724 habitants au dernier recensement, a vraiment besoin de nouveaux médecins et il y a urgence, Martine le confirme.
Bah, le mien, oui, qui s'en va au mois de juin. Bon, bah, pour l'instant, je n'ai pas encore cherché. Je pense que ça ne va pas être évident. Il y en a de moins en moins. Oui. Les médecins ne veulent pas, a priori, s'installer dans nos campagnes. Pourtant, c'est bien agréable.
Philippe Chapuis, ancien médecin militaire, s'est installé il y a presque 20 ans. Et depuis, le nombre de médecins est en chute libre.
Lorsque je m'installe, nous sommes une dizaine des médecins généralistes. Aujourd'hui, nous sommes 4 et demi. En 19 ans, on est à 50%.
Ça n'a pas découragé la jeune doctoresse Liliane Barbance, amoureuse de la campagne.
J'ai toujours imaginé bosser, travailler à la campagne. C'est quelque chose qui me plaisait. Vivre à la campagne aussi. Donc non, ça n'a pas été... C'était une philosophie quoi, de vie. J'ai pas eu d'hésitation. Je voulais pas travailler en ville.
Il y aura a priori deux maisons médicales de santé, une à Lectoure et une autre à Miradoux, localité distante de 21 km. Des professionnels de santé du secteur sont déjà sur le même réseau informatique pour mieux suivre les données médicales des malades et pouvoir les recevoir pendant les gardes en connaissant leur dossier médical. Lectoure, Stéphanie Glésis, France Inter.
Retour à présent sur une information importante dont nous parlions hier dans ce journal. Le groupe des conseillers proches d'Emmanuel Macron, de plus en plus clairsemé à l'Élysée. Le départ annoncé dans quelques semaines d'Ismaël Emelien, le conseiller stratégie. Il s'en va donc après le conseiller com, entre autres. Quelles conséquences, Cyril Graziani?
On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est le constat qu'ont pu faire certains conseillers de l'Élysée. Depuis le départ du directeur de la communication Sylvain Faure, le président est meilleur, lâche un proche d'Emmanuel Macron. Maintenant qu'il n'a plus de conseiller stratégie, on va voir la stratégie se développer, poursuit-il un brin perfide. Seul, le chef de l'État décide mieux, selon ses amis. Pour autant, des proches ont été missionnés en quête de nouveaux conseillers. Le producteur et propriétaire de théâtre parisien Jean-Marc Dumontet a fait passer ce qui s'apparenterait presque à un casting pour dénicher le nouveau directeur de la com. Tout ça débouchera en mars, veut croire un intime. Il faut reconstituer une petite armée prête à mourir pour Macron, dont la seule ambition sera de le servir et pas de devenir ministre, poursuit un autre. On dit dans cette maison qu'il manque des maréchaux de l'Empire, il manque surtout des fantassins, raconte-t-on dans la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Comprenez, des gens plus connectés au réel. La crise des gilets jaunes est visiblement passée par là.
La politique encore, c'est la question des affaires qui continue d'obscurcir le paysage. Un dossier nettement moins épais que l'affaire Benalla est rouvert. La soirée d'Emmanuel Macron à Las Vegas en 2016. Il était alors ministre de l'économie. L'élection de 2017 n'était pas loin. Et à Las Vegas, en marge d'un salon de la high-tech important, il avait rencontré une série d'entrepreneurs français. Opération montée par l'agence Business France, dont la directrice générale s'appelait alors Muriel Pénicaud, aujourd'hui ministre du Travail. Prestataire choisi pour la soirée, Havas, sans appel d'offres. Y a-t-il eu du favoritisme dans l'air? Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
On s'orientait vers un non-lieu. Havas vient d'être mis en examen pour recel de favoritisme et l'enquête, Sarah, pourrait maintenant se rapprocher de Muriel Pénicaud.
Oui, quand elle était interrogée en décembre, Muriel Pénicaud ne cachait pas son agacement et se disait hors de cause dans l'enquête sur cette soirée de Las Vegas. Mais pour la ministre, la mise en examen d'Havas risque de changer la donne. Si Havas est soupçonné de recel, les juges devraient ensuite se tourner vers le possible auteur du délit de favoritisme. Et il est clair qu'au sein de Business France, la gestion de cette soirée à un peu moins de 300 000 euros est remontée jusqu'à la directrice. Alors sur le fond, la question est de savoir s'il fallait faire un appel d'offres pour organiser cette soirée de promotion des start-up françaises et par la même occasion du ministre de l'économie. Pour Havas, depuis le début, la réponse est non. L'agence de communication venait de remporter un grand contrat avec Business France dont l'objet était justement la promotion de l'attractivité économique de la France à l'étranger et notamment aux États-Unis. Havas estime que l'événement, même commandé en urgence, rentrait dans ce cadre et va faire appel de sa mise en examen.
Vers un aménagement de peine pour Jérôme Cahuzac, qui avait été condamné notamment à de la prison ferme, la justice à Ajaccio accepte le principe d'un aménagement de peine sous forme de bracelet électronique. La ligue du LOL a au moins une petite sœur en France, même si l'ampleur de l'affaire est a priori nettement moins importante. La ligue du LOL, vous savez, ces journalistes trentenaires, tout ce qu'il y a de plus branché, geek et progressiste, qui ont passé une partie de leurs heures perdues à dénigrer et harceler sur les réseaux sociaux des jeunes femmes principalement, petit milieu des pionniers du journalisme web à Paris. Et bien donc, plusieurs ex-étudiantes de l'école de journalisme de Grenoble dénoncent des faits similaires de la part d'ex-camarades dans un groupe Facebook. 17 étudiants se moquaient violemment de leurs congénères, visant principalement des femmes. Vous nous en parliez dès ce matin sur France Inter, Sébastien Sabiron. Les attaques sortaient parfois du cadre des réseaux sociaux et le groupe Facebook existe encore aujourd'hui, Sébastien.
Et ce sont bien les révélations de la Ligue du LOL qui ont replongé Marilyn dans ses douloureux souvenirs. Première année d'école de journalisme, la jeune femme est victime de trolls sur les réseaux sociaux. Des trolls qu'elle connaît bien, ce sont ses propres camarades de promo.
C'était des attaques publiques récurrentes, c'était un petit commentaire comme ça, laissé sous une publication qu'on avait partagée sur Facebook. Mais c'était tellement répété que nous, on le vivait comme un harcèlement parce qu'on en venait à se poser la question, est-ce que je vais partager ça parce qu'ils auront forcément quelque chose à y redire. Et à ça, ils nous répondaient, j'ai plus rien pour toi si t'as pas d'humour.
À l'époque, Marilyn ignore l'existence de ce groupe privé Ultimate 8, 17 garçons et filles qui se moquent de leurs camarades, commentent leurs publications dans une tonalité souvent misogyne et sexiste. Ces derniers jours, l'une des membres du groupe agacée quitte le groupe et en informe les cibles. Mathilde en fait partie.
Moi, ça a été surtout des blagues sur ma sexualité, parce que j'ai eu une relation d'un soir avec quelqu'un de la promo du dessous. C'était des blagues sur mon poids. Quand j'ai découvert ça, j'ai d'abord été très en colère, triste et honteuse en fait. Après, je me suis dit qu'il fallait que ça se sache.
Aujourd'hui, Mathilde travaille dans une rédaction nationale et partage son open space avec des membres de ce fameux groupe qu'elle vient donc de découvrir. Céline Argenteau, elle aussi en a été la cible, elle parle, mais pas dans un esprit de revanche.
Il peut y avoir de la sensibilisation, il peut y avoir dans ces écoles un peu un réflexe à se dire de la part des professeurs ou quoi, observer un peu ce qui peut se passer et puis éviter ce genre de groupe qui peut faire du mal.
Les membres d'Ultimate 8 insistent sur le caractère privé de ce groupe qui existe encore, vous le disiez Bruno. Certains d'entre eux ont malgré tout décidé d'appeler les victimes ce matin pour s'excuser.
L'actualité en Europe, on va vers des élections anticipées en Espagne. Budget rejeté pour le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, manque notamment le soutien des indépendantistes, ce qui est très important dans le contexte actuel. Et puis on parle hier de la flambée des actes antisémites en France. Eh bien, le gouvernement allemand fait aujourd'hui le même constat du côté allemand.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Maestro Kimpembe, tous les amateurs français de foot n'ont pas passé une aussi bonne soirée que le PSG hier. Manchester PSG, premier go match de l'année et exploit des Parisiens. Victoire 2-0 chez les Anglais. Kimpembe, Mbappé pour les buts. Mais, encore des bugs, petits ou grands, sur RMC Sport, la chaîne qui diffuse la Ligue des Champions. Et parallèlement, vous nous en parliez dans les titres, Cécilia Arbonin, sur la page Facebook officielle du PSG, on pouvait voir le match gratuitement pendant une partie de la soirée.
RMC Sport n'avait pas du tout imaginé ce scénario. Depuis 3 semaines, la chaîne avait prévenu ses abonnés par ce SMS de mise en garde. Votre offre vous donne accès à un seul écran à la fois. Vérifiez que votre mot de passe n'est pas partagé. La menace, clairement, elle pouvait venir donc du bidouillage, du copinage et aussi du visionnage sur des sites illégaux en streaming. Mais patatras, une vague inattendue a déferlé sur les réseaux sociaux. Vite, allez tous sur la page Facebook du PSG. Message reçu. Jusqu'à 200 000 personnes se seraient connectés et auraient profité du spectacle à l'œil. Alain Veil, président de RMC Sport, est très contrarié.
Il semblerait que ça vienne du Brésil. Je ne peux pas croire que ça a été voulu, évidemment, par la direction du PSG, mais il n'empêche qu'il y a eu une grosse défaillance chez eux. Donc on va regarder comment régler le problème.
Vous avez des dommages que vous pouvez chiffrer, c'est ça?
C'est sans doute trop tôt pour le faire. On le fera le mouvement voulu, mais il y aura des suites judiciaires à ce problème de piratage. C'est un grave problème dans l'univers du sport. Dans l'univers du cinéma, c'est lié à toutes les possibilités du digital, d'Internet, mais c'est vrai qu'il faut urgemment trouver des solutions.
Selon l'économiste du sport Christophe Lepetit, le piratage sportif représente un manque à gagner pour les diffuseurs autorisés et qui payent cher, très cher, évalué à 500 millions d'euros en France.
Et ce soir, la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Tottenham, Dortmund et Ajax d'Amsterdam contre le Real Madrid. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
C'est mercredi, c'est cinéma, c'est Eva Bétan, pas un, mais deux choix oui. de films. D'abord un premier film, Eva, une fiction, Deux fils de Félix Moati avec son copain Vincent Lacoste.
Oui, alors vous savez, il y a un petit picotement de plaisir particulier quand on voit arriver un bon premier film, parce que c'est comme c'est quelqu'un qui arrive, c'est un cinéaste, ouais. il a sa manière.
Chic, un nouveau copain.
Ouais, de cinéma. Celle de Félix Moati, c'est que c'est quelqu'un qui n'insiste pas. Il fait passer des choses profondes légèrement, vous les saisirez si vous voulez. Déjà la manière dont il commence le film, ce sont des scènes courtes, mais les personnages existent tout de suite, même les tout petits rôles. Alors, il y a Noémie Lvovsky 3 secondes, mais là c'est pas juste, même en photo, elle ferait passer de l'humanité tellement cette femme est formidable. Les décors aussi. Ça a l'air de rien, mais la maison, elle sonne vraie. Et c'est très très important. Le film débute après une mort. Poulvord a perdu son frère aîné. La notion qui passe, ou que j'ai peut-être rêvé, c'est que un jour, la génération d'avant, vous, a disparu. Et il n'y a plus personne qui fait rempart entre vous et la mort. Mmh. Cet homme a deux fils, un fils adulte dont Vincent Lacoste, qui a un chagrin d'amour, et un garçon de 13 ans, formidable, Mathieu Capella. Et nous avons donc un ado face à deux adultes fragiles. Alors, il existe un genre clandestin, un genre non répertorié, je trouve très beau, qui s'appelle les films et aussi les livres de la mère, de l'amour de la mère. Oui. Les films du père sont très rares. Celui-ci en est un. Il n'y a pas de mère, il n'y a pas de femme dans ce film. Juste trois. Dans les choses qui passent, ou là aussi que je peux être rêvé, c'est que dans une famille, se protéger, c'est pas sens unique. Par moments, ce sont les enfants qui procèdent les parents. Un lien fraternel, c'est à la fois inoxydable, mais c'est fluctuant. Par moments, on doute. Pourquoi on était si proches et on l'est moins? Voilà, c'est pas un grand sujet. Encore que ce sont nos vies, nos sentiments. C'est juste ça, mais ça sonne très très juste.
Et ça s'appelle Deux fils. Le deuxième film que vous nous conseillez, c'est un documentaire produit par Pedro Almodovar. On parlait de la situation politique en Espagne. Ce documentaire s'appelle Le silence des autres. Au fond, les effets pervers de la loi d'amnistie après la mort de Franco.
C'est vraiment intéressant parce que au moment où Franco meurt en 75, cette loi d'amnistie permet à beaucoup de prisonniers de gauche, je dirais du franquisme, de sortir de prison. Mais en même temps, elle protège les bourreaux. Mmh. Et ceci, ça date d'il y a 45 ans, 75, 44 ans, la mort de Franco. Ils sont protégés absolument jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas les poursuivre en justice. Vous voyez le roi Felipe qui dit non, il faut garder ce pacte de l'oubli. Et vous avez une victime qui dit, voyez là cet immeuble. Là, j'habite pas loin, c'est là que vit mon bourreau. Vous voyez un des bourreaux de l'époque, Billy El Niño, un monsieur d'une 60 ans, bien mis. Ça pose des questions. On va suivre des victimes qui vont trouver une parade, qui est de les poursuivre en Argentine, au nom de crimes à l'étranger, de crimes contre l'humanité. Mais jusqu'à présent, l'Espagne refuse l'extradition. Et ça pose des questions démocratiques. On peut se comprendre, et d'autres pays dans l'histoire l'ont fait, qu'à des moments de transition, il faut faire quelque chose pour ne pas que le pays se déchire. Mais alors que le XXe siècle a été celui du devoir de mémoire, qu'est-ce que ça veut dire quand, quasiment un demi-siècle après, on refuse le droit à la justice à des victimes? Est-ce que c'est encore démocratique?
Le silence des autres, documentaire espagnol de Almudena Caracedo et Robert Bahar, produit par Almodovar. Merci Eva Bétan. À mercredi prochain.
À mercredi.